Sur Radio Prévert, notre rencontre avec le monde syndical sur Radio Prévert, nous aimons le débat d'idées pour les grands enjeux sociétaux. Et parlant de grands enjeux, il y a le projet de réforme des retraites dont nous vous parlons depuis quelques temps à l'antenne. Et aujourd'hui, on retrouve ici en studio Sylvain Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-secrétaire de l'Union locale CGT de la Flèche. On vous avait déjà interviewé lors d'une des mobilisations à la Flèche et on a pris plaisir à enregistrer ce que vous avez eu comme échange, parce que ce n'était pas vraiment une interview puisqu'on a laissé traîner notre micro. Il y avait un échange avec l'un de vos collègues de la CFDT. Alors de mémoire, il y avait un ancien routier qui nous disait être venu en soutien à son épouse, parce que à travers son épouse, il se disait que les femmes étaient pas vraiment bien loties avec ce projet de réforme des retraites. Un échange qui vous a plu, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Ouais.
Vous aimez ce genre de choses, échanger avec les gens. De quelles origines professionnelles ils sont, de quelles origines syndicales ils sont?
Bah tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que là, on est dans une période où on rencontre quand même des personnes extérieures au syndicalisme. Et éventuellement, vous connaissez un petit peu les appartenances de chacun. Il y a une forme d'union quand même, enfin, sur un discours citoyen. Après, les organisations syndicales ont leur différenciation politique. Mais c'est vrai que là, dernièrement, oui, le salarié dont vous parlez, là, une étiquette qui est différente de la mienne, je le connais déjà personnellement, mais il fait partie d'une grosse usine, en fait, hein, sur le secteur fléchois. D'ailleurs, la plus grosse, et donc du coup, c'est plutôt précieux, en fait, de voir des élus comme ça, ou des salariés faisant partie de l'industrie, quoi.
Et aujourd'hui, on vous retrouve puisqu'il y a une grosse mobilisation qui est annoncée pour le 7 mars 2023, après les précédentes qui ont réuni pas mal de Français, pas mal de personnes qui se sont exprimées sur cette réforme des retraites, sur ce projet de réforme des retraites. Vous, à la Flèche, l'intersyndicale appelle encore à une nouvelle journée de mobilisation pour ce 7 mars prochain. C'est-à-dire que vous comptez sur la même mobilisation qu'il y a eu avant, qui est cette sorte de trêve avec la période des vacances.
Oui, je pense, puisque de toute façon, période de vacances, on a vu qu'on baissait un petit peu, mais c'était normal, pluvieux et en vacances. Mais je crois que le sujet est toujours là. De toute façon, il y a 3 ans, lors de la retraite à points, il y avait aussi du monde. Et là, ce sera aussi la surprise, hein, de voir si certains se sont reposés ou pas. Mais de toute façon, on voit bien que, même au niveau des sondages, hein, que l'opinion des citoyens... et plutôt contre la réforme. Donc on ne peut pas, en tout cas dans la ruralité, ne rien proposer. Et effectivement, il y aura différents rassemblements en Sarthe, hein, puisqu'il y aura Montval-sur-Loire, La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, en plus de la manifestation du Mans. Donc je sais que les 500 personnes qui sont là régulièrement sur La Flèche, ce ne sont pas les 500 personnes qui vont au Mans, hein. Donc il faut qu'on aille au débat justement avec les salariés, avec les citoyens, quoi.
Et justement, ce débat, de façon globale, est-ce qu'il a bougé? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu une évolution de l'opinion par rapport à ce que vous aviez fait comme remarque dès les premières heures de la mobilisation?
Je pense que c'est resté assez constant quand même sur le nombre de fléchois qui viennent aux manifestations. Donc, à mon avis, je pense pas avoir convaincu plus. Après, peut-être que ceux qui ont été en manifestation ont convaincu leurs voisins.
Et on le disait, à l'échelle de la Flèche, le nombre de personnes qui se mobilisaient était assez conséquent, vu la taille de la ville. Et la Flèche n'est pas un épiphénomène, puisque dans d'autres villes moyennes dans le pays, c'était des mobilisations aussi fortes. Et qu'est-ce que vous... à la CGT, vous, personnellement, vous pensez de cette mobilisation dans les villes moyennes, dans les villages? Qu'est-ce que ça dit par rapport à l'état de l'opinion, sans aller forcément sur des considérations tenant au projet en lui-même?
Je pense que effectivement, il y a une population qui supplémentaire qui s'exprime, puisqu'on a bien vu, que ce soit dans les villes, hein, même dans les plus grandes villes, dans les chefs-lieux, on voit aussi beaucoup de gens sans bannette, hein, quand même, et sans drapeau. Donc, il y a quand même une opinion différent. D'habitude, nous qui avons l'habitude de faire des manifestations syndicales où on est tous encartés ou sympathisants, là je crois que ça va au-delà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai un discours citoyen et je l'ouvre. Hein. Réellement, désormais, il n'est pas uniquement syndical, hein, le débat qu'on a là.
Ah justement, et c'est quoi la différence? Où mettez-vous le curseur? Alors, si je dis Sylvain Garnier, parlez-nous comme un syndicaliste. Le syndicaliste, qu'est-ce qu'il dit à propos du 7 mars prochain? Et le citoyen qui a le discours citoyen, qu'est-ce qu'il dit à propos du 7 mars?
Ouais, de toute façon, là, par rapport à moi, ce sera quasiment la même chose, puisqu'en fait, c'est forcément un sujet politique. Donc, moi, j'appelle la population, justement, à rejoindre les mouvements. Donc, j'appelle notamment à la grève, mais aussi aux citoyens. Donc là, ça va être différent du syndicaliste, parce que c'est pas dans l'entreprise là directement. Ceux qui sont pas au travail à ce moment-là, au moment des manifestations, il faut y aller. Si on fait des manifestations locales, justement, c'est pour proposer. Le matin, notamment, hein, c'est, en Sarthe, c'est ce qu'on fait le plus, proposer une manifestation alors que celle du Mans a lieu l'après-midi. Donc de toute façon, ils ont le choix entre l'une ou l'autre. Après, ce qui est clair, c'est que le but, maintenant, pour le 7 mars, à partir du 7 mars, pour les organisations syndicales, c'est de pouvoir bloquer, hein, économiquement le pays, hein, pour que le gouvernement bouge, puisqu'on a bien vu que là, actuellement, il est sourd. Et... effectivement, dans les campagnes, c'est peut-être pas dans les petites boîtes. Ça dépend de l'activité, en fait. Ça dépend du secteur d'activité. Mais on attend aussi les gros secteurs d'activité, hein, comme les transports, le pétrole, l'énergie, hein, pour qu'ils emboîtent aussi le pas. Mais c'est fait, hein, de toute façon. Hein, ça y est, c'est parti. Hein, à partir du 6 au soir, je pense qu'on va commencer à voir, en tout cas, des gros secteurs d'activité s'y mettre. Et justement, nous, en ruralité, on est là pour faire le relais de ça. Et le but pour nous de proposer des choses locales, alors qu'on peut aller au Mans régulièrement, qu'on fait aussi avec le copain de Sablé, hein, le but c'est de pouvoir rediscuter aussi avec les gens et puis leur redonner un autre discours. Effectivement, peut-être qu'eux pensent que localement c'est pas là qu'ils changeront la donne, mais ils ont le droit d'être au courant quand même. Et justement le lien de notre expérience syndicale et de nos connaissances et des informations qu'on a, il est là. Et on doit le transmettre à la population et aux salariés.
Nous avons interviewé le sénateur Louis-Jean de Nicolaï, qui nous a dit, le timing, il est un peu surprenant, oui, on peut penser ce qu'on veut, de ce que les uns et les autres considèrent comme étant la durée juste pour une vie de travail, mais on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien dans la société. Il nous a plusieurs fois répété lors de notre... long entretien qui a duré quasiment une heure, le monde change. Le monde change. Le monde est en train de changer. Et là, moi, personnellement, ça m'avait beaucoup frappé, où je me suis dit, c'est quelque chose qui ressemble à une ouverture, à quelque chose qui ressemble à une compréhension d'un phénomène qui est en train de se dérouler là, sous nos yeux. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà d'un élu étiqueté à droite, hein, il est LR, Louis-Jean de Nicolaï, il n'est pas de votre courant de pensée philosophique, est-ce que vous vous dites, ok, on tient là quelque chose, il y a lieu de parler avec tout le monde, et ça renforce ce que vous disiez par rapport au discours citoyen que vous voulez tenir?
Mais je pense qu'il y a une prise de conscience en fait de la population, d'une valeur qu'on défend depuis longtemps, hein, c'est-à-dire une meilleure répartition des richesses. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là là, que ça se passe. De toute façon, vous avez observé 2018, 2019 et début 2020. Là, on est en train de récupérer, donc au-delà de cette réforme, on est en train de récupérer les problèmes qui s'étaient arrêtés juste avant Covid, puisqu'on était quand même parti, donc après Gilets jaunes, dans un sacré combat. Et les problèmes sont restés là. En fait, finalement. Et donc, il se réveille. Donc, c'est pareil, il faut laisser aussi le temps. Je pense qu'il y a une période d'incubation. Donc, peut-être que là, finalement, les deux semaines, il y avait les vacances, il faut aussi le faire. Après, on sait très bien que y a ce problème de pouvoir d'achat qui est là et qui frustre aussi les citoyens et les salariés pour se mettre en grève. Surtout qu'en plus, souvent, les négociations salariales, elles ont lieu à peu près même période. Nous, par exemple, dans notre usine, bon, il y a eu une grève aussi parallèlement. Je ne sais pas du tout si on va pouvoir remobiliser le 7 après une mobilisation, comment dire, sur les salaires.
Parce que les enjeux aussi de court terme sont très importants. Vous l'évoquiez, Covid, guerre en Ukraine, flambée des prix, tous azimuts, alimentation, énergie. Et s'imaginer voilà, qu'on se retrouve là, dans une mobilisation qui parle des retraites, pour certains, ils vont se dire « Ok, bah, c'est un peu loin tout ça ». Et puis bon, d'autres qui vont se dire « Bon, ils vont passer, ils vont faire ce qu'ils veulent, le gouvernement. » Et pour certains, c'est aussi une stratégie de dire « Ok, la situation financière est compliquée, donc il y a certains qui vont y réfléchir à deux reprises avant de se mobiliser. » Et on l'a vu au Mont, par exemple, lors de la mobilisation du samedi, il y avait du monde. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Bah oui, moi, j'assume de venir là maintenant parce que économiquement, c'est trop dur. » Il y a une autre personne qui m'a dit « Avec mon époux, avec mon conjoint, on s'organise. Si l'un fait grève en semaine, et s'il y a une autre mobilisation la semaine d'après, c'est moi qui fais grève, on tourne en fait. » Donc les gens s'organisent aussi pour ne pas être pénalisés économiquement. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez... mettre en place pour dire « Ok, c'est dur économiquement, mais il y a quelque chose aussi à voir au-delà de cette urgence qu'on a économiquement pour le court terme. »
Mais bien sûr, en fait, après, c'est vrai que nous, on a ces problèmes-là en ruralité où les gens se mobilisent moins parce que justement, il n'y a pas de manif assez proche. Donc je parle pour ceux qui ne sont pas forcément dans l'activité syndicale. Et c'est la question que je me pose, comment relancer, par exemple, même moi-même, dans une boîte où l'établissement fait 140 salariés, ceci. Mais en tout cas... Le dialogue, il est ouvert. Après, le tout, c'est à nous de trouver les arguments, mais je pense que les gens, que ce soit partout en France, ils vont quand même observer ce qui se passe au niveau maintenant des gros secteurs d'activité, puisqu'on est bien d'accord que le gouvernement n'est pas prêt à lâcher. Pour lui, là, il en rigole encore. Donc, moi, c'est difficile, en fait, d'appeler vraiment radicalement, là, dans les petites boîtes du secteur, de dire « mettez-vous en grève ». Mais n'empêche que le 7 mars, on a bien dit qu'il fallait réduire les activités économiques, il fallait bloquer le pays. Alors, pour ceux, là, qui attendent encore comment ça se passe, c'est bientôt le 7. Donc, réveillez-vous, il est encore possible de faire des débrayages, là, sur la Flèche, entre la Flèche et Sablé, là, dans les entreprises, même si c'est une heure, même si c'est deux heures, mais participez, au moins. Parce que ces rapports-là, ils remontent quand même au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, après. Donc moi, je pense que si vous avez encore des heures à donner, il faut. Et de toute façon, bon, là, on parle quand même de deux ans de punition, de toute façon, puisque quand on prend les rapports économiques, le COR le dit bien, de toute façon, qu'au niveau du PIB, bon, on peut encore se le payer largement. C'est-à-dire que là, on parle juste à l'horizon de 2027. Pourcentage de PIB, bon, on est aux alentours des 14%, un petit peu en dessous. Il n'y a pas péril pour ça. Peut-être qu'effectivement, on peut se poser la question démographique, mais là, si on arrêtait l'exonération de cotisations sociales, au patron, je pense que là, on pourrait largement se payer ça. Et puis, bon, bah, on a toujours ce sujet de l'égalité salariale. On a parlé des femmes, donc ça en fait partie. Nous, en tout cas, à la CGT, on a déjà proposé d'autres moyens de financement. Et puis, c'est pareil, une revendication autre que certaines fédérations de la CGT portent, c'est bien, à un moment donné, d'aligner les salaires, en fait, en fonction de l'inflation. C'est-à-dire, au-delà de cette augmentation du SMIG, conventionnellement, ce serait directement d'indexer les salaires sur l'inflation. Et puis, de toute façon, derrière, moi, je rappelle que je suis pour la taxation des super-profits.
Sylvain Garnier, co-responsable de l'Union locale CGT de la Flèche. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faudrait pointer actuellement. Est-ce que vous avez une idée des statistiques? Est-ce que vous côtoyez des gens qui sont aujourd'hui à la retraite qui ont des pensions qui sont importantes, ou alors c'est des gens qui ont des pensions, on va dire, plutôt proches du SMIC ou en dessous du SMIC, parce qu'il y a aussi cette légende qui dit, bah oui, les gens à la retraite, ils sont nantis. Est-ce qu'en France, on a ce genre de choses-là?
Ah bah oui, il y a de tout. Hein. Donc effectivement, il y a du proche et du en dessous du SMIC, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est pas possible. Alors il y a les deux, évidemment, mais bon, après, ceux qui sont au-dessus, bon, ils gagnent pas trop mal leur vie, mais même ceux-là sont pas forcément des salaires super élevés. Hein. D'ailleurs, quelqu'un qui gagnait 2000 euros et qui a 1006 aujourd'hui, bon, c'est pas non plus... Il y a ces exemples-là, puis après, il y a tous ceux qui sont, justement, en dessous du SMIC. Et ça c'est vraiment pas possible. Les 1200 euros qu'on nous propose, déjà, c'est pour une carrière complète.
Vous avez vu comment ça a évolué, l'histoire des 1200 euros. L'impact, les nombres, les personnes qui pourraient réellement...
Mais bien sûr.
On est à l'horizon 20 000 personnes, c'est ça?
Ouais, mais bon, après, franchement...
Ça veut rien dire.
On parle de milliers. On a réaugmenté de quelques milliers, mais je pense que là... Mais ça, c'est toute la stratégie politique. C'est de partir vraiment, de te mettre à poil, et puis après, avec des bouts de chandelle, de remettre les choses. Mais de toute façon, là, on n'est même pas que là-dessus, en plus. Donc, parle vraiment de ces deux ans qu'on conteste, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à exonérer les cotisations sociales et récupérer le budget, justement, sur les salariés. Et comme j'ai discuté tout à l'heure un petit peu avec vous là-dessus, on tient bien à ce que l'argent des différentes branches de la sécurité sociale reste au bon endroit. À un moment donné, ça veut dire que... En augmentant cet âge, de toute façon, ça, c'est des chiffres qui existent déjà. Il y a déjà des arguments là-dessus. On sait très bien qu'à un moment donné, c'est le fait que la population vieillisse, qu'à un moment donné, on consomme de l'argent au niveau de la sécurité sociale, donc par rapport à la maladie. Donc, c'est pas possible. Les salariés vont finir, on va dire, en arrêt de travail, en accident de travail. De toute façon, il y en a déjà un grand nombre hein, qui après 60 ans ne finissent pas leur carrière dans les entreprises. D'autres, bon, voilà, c'est plus la Sécu, mais sont carrément sur l'assurance chômage. Donc, faudrait demander à l'UNEDIC ce qu'ils en pensent aussi de ça, à un moment donné, de ce que ça leur coûte. Parce que c'est vraiment un débat de société, ça.
C'était justement ce que j'étais en train de regarder. C'est curieux, on dirait que vous êtes dans ma tête. Sylvain Garnier, senior et marché du travail, ça vient de tomber. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Depuis deux décennies, une hausse de l'emploi des seniors, le taux d'emploi des 55-59 ans est dans la moyenne européenne. En France, plus bas pour les 60-64 ans. Un taux d'emploi qui se réduit avec l'âge passé 50 ans. Hausse progressive de l'inactivité jusqu'à 61 ans, dont une partie pourrait s'expliquer par des problèmes de santé, vous y faisiez allusion, plus fréquents avec l'avancée en âge. Les départs en retraite s'accélèrent à partir de 60 ans. Le taux de chômage des seniors est relativement bas. Mais les seniors au chômage ont des difficultés à reprendre un emploi. Différents facteurs explicatifs, santé, niveau de qualification, formation insuffisante, discrimination à l'embauche, etc. Donc ça vient de tomber, c'est tout récent, on n'a pas évidemment eu le temps de regarder dans le détail, mais c'est en résumé quelques indicateurs qui renforcent ce que vous disiez à l'instant.
Mais de toute façon, on parle bien d'argent hein, dans les caisses, donc si on veut des actifs, hein, il faut créer de l'emploi aussi. Et à la rigueur, il faut d'abord traiter ce problème de l'employabilité des seniors, et aussi... de pouvoir réembaucher aussi ceux qui démarrent dans la vie active. Hein. Donc, si on fait partir les gens plus tard, c'est comme les heures supplémentaires, à un moment donné, on partagera jamais le temps de travail si on fait des heures supplémentaires. Donc, il faut arrêter ces exonérations aussi des heures supplémentaires. Il y a tout ça, en fait, qui pose problème. Parce que nous, on va au-delà hein, de cette réforme. Là, c'est vraiment politique. Hein. Le gouvernement Macron a bien attaqué le Conseil national de la Résistance. Lui aussi, son projet se porte CNR. Hein. Donc, si ça, c'est pas un clin d'œil. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de redire une chose. Et là, comme on parle de la vieillesse, que bon, on étend le sujet forcément à la sécurité sociale, à l'UNEDIC. C'est logique, tout ça, c'est lié. Mais je reprends Ambroise Croizat au début du projet. Hein, qui disait, il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin, nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Alors effectivement, peut-être que LR et la majorité pourront répondre, mais justement, on veut sauver le système. Mais non. On voit bien que ces besoins-là, ils veulent financiariser tout ça. En fait, le projet, il est politique, mais depuis plus de 70 ans, en fait. C'est-à-dire que jamais, en fait, la part capitaliste l'a digéré, ceci. Puisque, d'ailleurs, au départ, c'était géré par les travailleurs, hein, tout ça. Et à terme, et c'est arrivé sous De Gaulle d'ailleurs, cette gestion en fait après, elle a changé, puis elle est devenue, soi-disant paritaire. Enfin, mais au départ, c'était les travailleurs qui géraient les caisses de la sécurité sociale. Et de toute façon, le projet, c'est bien de refinanciariser les besoins de la société. Donc moi, c'est ça que j'ai envie d'apprendre en fait aux citoyens aujourd'hui, des choses qu'on n'a pas forcément le temps de parler en manif. Pour appuyer aussi ce que je suis en train de dire là, j'ai récupéré aussi, je me souviens de la déclaration de Denis Kessler, hein, qui était numéro 2 du MEDEF, donc lui en 2007, et il disait bien, il s'agit de défaire méthodiquement le programme du CNR. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité. Ce programme ambitieux, la liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception, elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Et de toute façon, c'est poussé par l'Europe. On a bien vu que ces réformes, elles ont lieu aussi à côté. D'ailleurs, souvent, quand on a réforme en France, on n'en parle pas souvent, les Belges, ils sont dedans aussi.
Justement, c'était la question que j'allais vous poser, je vous coupe, pardon. Est-ce que vous discutez avec vos homologues syndicalistes des autres pays, puisque on dit généralement il faudrait que les Français se renseignent pour voir ce qui se fait dans les autres pays par rapport à l'âge où les gens partent à la retraite dans les autres pays, hein, pour dire qu'en fait 64 ans qui est annoncé en France, il y a plus qu'ailleurs. Est-ce que vous avez des retours des syndicalistes, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils voient que vous êtes en pleine mobilisation en France actuellement?
Alors ceux qui sont le plus proches de nous là-dessus, enfin moi après j'ai pas de contact aujourd'hui personnellement, hein, puisque bon je suis juste un acteur local, mais c'est vrai que je m'intéresse à ce qui se passe en Belgique, et c'est vrai que dernièrement au niveau de la CES, j'ai pu voir des interviews aussi des Belges qui subissent ça. Et
la CES étant la Confédération Européenne des Syndicats.
C'est ça. Mais c'est juste ce que j'ai vu dernièrement. J'ai pu voir effectivement un syndicaliste belge s'exprimer là-dessus. Après, il est difficile en fait de comparer la France avec l'Allemagne, la France avec la Suède, etc. C'est pas du tout. Il y a plein de choses. À chaque fois, on va trouver des avantages quelque part, des inconvénients ailleurs. Après, la question à se poser, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Jusqu'à quel âge on a des gens en bonne santé qui peuvent travailler finalement? C'est ça surtout l'important. Et en réalité, après, nous en plus, on a un taux de décote en France qui est assez important. Hein. Mmh. Et peut-être qu'effectivement, ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'il est moins important. Donc, ils arrivent à partir un petit peu avant l'âge légal. Est-ce que nous, a priori, en France, on va parler économiquement, on peut pas vraiment. Hein. Donc, on va arriver en fait avec des retraites qui vont être très faibles, puisque statistiquement on voit bien que là l'âge de départ en bonne santé il diminue, quoi.
Donc un débat qui continue, et la prochaine étape, puisque à partir du 7 la mobilisation va avoir une forme différente, hein, à l'évidence. Vous vous appelez en local les salariés à débrayer au maximum. Et quand on entend les responsables politiques au niveau national qui disent la situation économique est ce qu'elle est, on sort de Covid, il y a l'inflation, etc., et que la meilleure façon de procéder, c'est pas celle-là, de mettre le pays à l'arrêt, qu'est-ce que vous leur répondez?
Mais c'est du chantage, de toute façon. Ils ont le rapport de force par rapport à ça, mais on a quand même bien vu que les mobilisations, elles ont été très très fortes là depuis le 19. On a été surpris qu'elles soient aussi importantes après ces 3 ans, on va dire, quasiment de d'inactivité au niveau des grèves, bon, sauf dans certains secteurs, parce que, comme je vous ai dit, rien n'a disparu. Hein. Dans la santé, les préavis de grève, ils sont là toute l'année. Hein. Dans l'éducation, bon, en 2019, ils ont vachement souffert aussi. Donc, on a aussi tous ces sujets-là là, qui reviennent sur le tapis. C'est-à-dire qu'on a la santé, l'éducation, on a ça. Donc, plus ce problème d'inflation, bon, on voit bien que les gens en ont marre. Donc, ils ont besoin effectivement d'augmentation de salaire, ce qui fera de l'argent dans les caisses. Et puis, en même temps, ils sont pas dupes. Hein. Les heures supplémentaires plus, ils en ont marre. Dans les usines, le fait que il y a une flexibilité telle qu'elle est et qu'on leur demande toujours. Alors même si effectivement il y a des accords, mais heureusement que les syndicats sont là. Hein. Pour mettre des garde-fous. Mais ils en ont marre, les gens, qu'on leur demande, bah écoute, tu veux pas changer. À un moment donné, quand ils font le bilan, même les jeunes, sur plusieurs années, bah ils commencent à s'énerver, justement, c'est ça. Et après, bah ils posent des questions de cette répartition des richesses. Et quand on leur répond qu'il n'y a pas de péril au niveau de la branche vieillesse pour les retraites, là, finalement, ils s'enflamment. Et ils se disent non, c'est pas toujours pour les mêmes. Voilà, tout simplement. Et là, je fais exprès de prendre un discours généraliste, là, de prendre des gens, justement, qui ne sont pas forcément dans les organisations. Il y a vraiment des questions nouvelles. Là, on a affaire à une population, lorsqu'on les rencontre, qui veulent le savoir là, en 5 minutes. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais les personnes qu'on rencontre à l'extérieur, que ce soit des gens non syndiqués dans l'entreprise ou à l'extérieur, ont besoin qu'on sorte le Larousse. Mais remarque, ça fait du bien, hein. Parce que vous-même, lorsque vous interviewez des gens, vous avez pu essuyer. C'est vrai que c'est pas évident déjà de parler derrière un micro ou de s'exprimer comme ça. Mais là, il y a une soif en fait de connaissances. Les gens ont envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on fait du budget, qu'est-ce qu'on fait de leur argent et pourquoi ils travaillent autant. Et en fait, quelque part, il y a cette question toujours de l'actionnariat qui est posée. Hein. C'est ça, en fait, hein, si on parle du privé. Hein, c'est de se dire, à un moment donné, mais moi, ma valeur ajoutée, elle va où, puisqu'on me demande toujours de faire des efforts.
De toute façon, vous évoquiez ça, les sondages le disent bien, il y a une adhésion au projet. Et en voyant que l'opinion est vent debout, j'aime pas trop cette expression, mais bon, elle existe, est vent debout contre le projet de réforme des retraites, est-ce que vous dites, OK, maintenant, il va falloir aller parler aux élus de la majorité relative, du Premier ministre, du Président de la République. Il va falloir aller leur parler. Il ne faut pas aller leur parler à ceux-là, ceux qui vont voter.
Après j'ai plus la date, mais justement, M. Martineau, pour la troisième circonscription, logiquement, il y a un café citoyen à Jupille. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou si c'est bientôt. Mais il va être interpellé prochainement par la population là-bas.
Ok, et donc ça c'est des choses que vous pourriez faire en tant que syndicat, même si c'est le...
Ah tout à fait, moi après j'ai pas eu contact avec le mouvement de Montval-sur-Loire, Château du Loir, je préfère dire Château du Loir. mais en tout cas ça aurait été ça. Par contre, si c'était maintenant, il est trop tard. Enfin, c'est par rapport au projet, avant, on pensait que par rapport au vote, à l'Assemblée nationale, voilà. Par contre, ils vont quand même avoir des comptes à rendre à la population, effectivement, ces gens-là, vu que l'opinion est différente. Donc ce sera à eux aussi de se comporter différemment. Mais je sais que par contre, dans ce que vous dites là, il va être interpellé, monsieur Martineau, très bientôt, là, dans le Café Citoyen à Jupille.
Est-ce que vous verriez... le gouvernement, en tous les cas, c'est ce que vous attendez de sa part, retirer son projet. Donc, est-ce que vous le verriez refaire, ou alors vous pourriez lui proposer de refaire les choses?
Pour l'instant, bien sûr. Mais il faut qu'il retire ça, tout simplement. Et en plus, c'est vrai que les revendications de la CGT, vous les connaissez, elles sont... On est en désaccord déjà depuis très très longtemps, puisqu'il y a les revendications qui ressortent toujours. Hein. On est toujours sur la retraite à 60 ans, 37 années et demie de cotisation. Donc finalement, on retournera à 150 trimestres. On va dire, mais vous êtes fous. Mais n'empêche qu'Ambroise Croizat, quand il pose le projet de la sécurité sociale, à l'époque, il était fou aussi. Hein. Et d'ailleurs, ils étaient fous alliés, eux, en face. Hein. Ils n'ont pas digéré. Hein. Le combat, comme je vous dis, il est politique, il dure depuis 70 ans. Et le but, c'était pas que ce soit forcément excédentaire. C'était déjà qu'il y ait système de solidarité, mais normalement, ça devrait. S'il y avait eu le 100% sécu, comme le projet initial, et même l'assurance chômage, même dans le intégré, de toute façon, non. Je pense réellement qu'on peut avoir une autre société. Maintenant, il y a des lobbying, Donc c'est tout ça en fait qu'il faut détricoter. Mais c'est pour ça que j'appelle aussi les organisations syndicales qui rejoignent, qui sont qui rejoignent le mouvement actuellement, à réétudier aussi hein, leur vision géopolitique hein, du monde, hein, au niveau international aussi, et qui réfléchissent bien, parce que là on est vraiment sur le vrai sujet hein, de l'inégale répartition des richesses, et on peut pas tolérer ça. À chaque fois qu'il y a une réforme bonne en France, de toute façon c'est les actionnaires qui en profitent, hein, les multinationales, donc cet argent elle part, le CICE ça servit à ça. Les exonérations de cotisations sociales, là, c'est pareil. Donc, et on devrait travailler 2 ans de plus, alors qu'on sait que, finalement, la valeur ajoutée, en fait, des travailleurs français, elle part chez les actionnaires.
Alors, ce que vous dites, Sylvain Garnier, responsable, co-responsable de l'Union locale CGT de la Flèche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait un travail à faire, non pas seulement en France, mais à l'échelon mondial, pour finalement inverser... le cours des choses, puisque on nous avait parlé de mondialisation, bah c'est vraiment le cœur du sujet, si je vous entends bien. Cette mondialisation, et qui veut dire que aujourd'hui, bah, le libéralisme débridé, on dit certains, fin de citation, on doit pouvoir refaire les choses autrement, puisque selon ce que vous me décrivez là, c'est pas de bon augure pour la suite.
De toute façon, en France, on est toujours observé du côté de la lauriette, hein, de toute façon. Donc, les salariés des pays limitrophes hein, européens observent ce qui se passe chez nous. Hein. Donc, ça pourrait aussi faire des petits ailleurs. Après, je pourrais pas régler le problème de l'ordre mondial avec ça. Hein. Mais en tout cas, c'est pour ça que je rappelle qu'à partir du 7, il faut s'organiser dans l'entreprise. Même si, dans certains endroits, et notamment dans des petites boîtes et dans la ruralité, il faut encore un temps d'incubation. Puis je sais que c'est pas facile, mais je pense qu'il faut observer l'information. Et si on voit que ça part là, dans les gros secteurs d'activité, dans l'énergie, dans le transport, dans le pétrole, il faut qu'après, il se passe quelque chose aussi dans les boîtes. Hein. Ça, c'est sûr. Alors après, tout dépend de l'activité. C'est vrai que c'est relatif. C'est pas évident aujourd'hui de dire dans certaines boîtes de dire on s'arrête là maintenant. Quand dans le service public, bon, bah, je sais qu'il y a quand même des appels aussi. Il faut le faire. Il faut le faire parce que, justement, cette sécurité sociale et cette branche, justement, cette branche vieillesse et la retraite, elle est mise à mal aussi pour ça. Si on n'avait pas, si on avait augmenté les fonctionnaires correctement à un moment donné au niveau du point d'indice, on n'en serait pas là. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ça revient au budget de l'État. Mais il faut arrêter. Ça, c'est l'Europe, c'est le pacte budgétaire européen, à un moment donné, qui monte la tête, en fait, à la population en disant, voilà, les dépenses publiques. Mais en fait, avec des milliers de milliards, qu'est-ce qu'on en a à foutre par rapport au temps qu'on a à vivre, en fait, sur cette planète, sur tout ça. Je veux dire, après, je pense qu'on a largement moyen de répartir les richesses et il faut que ça commence quelque part.
Et là, je vais me faire l'avocat du diable. Attention, monsieur Garnier. Les générations futures, puisque vous m'avez dit être proche des thèses du développement durable, faut pas trop leur grever le fardeau.
Non, mais ça, après, ça, c'est les arguments des détracteurs, effectivement, de droite. Hein, ça, c'est vrai.
Mais je
dis pas que vous l'êtes, mais je sais très bien. Mais je sais, j'en souris parce que non, mais c'est clair que justement, si avec toutes les difficultés là qui sont annoncées pour l'avenir. Imaginez, si même à ce niveau-là, on n'est pas bon, comment on va faire pour affronter le climat et le reste? Et si on n'apprend pas aux nouvelles générations, justement, qu'il faut à un moment donné se battre pour pouvoir avoir ce qu'il faut simplement pour remplir ses besoins physiologiques, voilà, notre mission, on l'a perdue. Puisque, bon, nous, en fait, nous ne sommes pas, en fait, cotés en bourse. Hein.
Vous parlez de qui?
Bah, nous, les salariés, les citoyens, on va dire les gens comme vous et moi, en fait, voilà, on est les mêmes. À un moment donné, j'ai même pas de seuil à dire au niveau des salaires. Même les cadres, il y a 3 ans, quand il y avait la réforme de retraite à points, quand ils ont commencé à regarder les simulateurs par rapport à ça, mais ils étaient dégoûtés par rapport aux heures de travail qu'ils font aujourd'hui, tous ceux qui sont forfait jour, hein, à un moment donné, de dire « mais ouais, je vais toucher que ça, même moi ». Parce qu'effectivement, à un moment donné, on parle toujours en valeur absolue, mais je veux dire, à un moment donné, il y a cette valeur ajoutée qui est là. L'argent, elle part quelque part, et à un moment donné, bah, c'est... Parce que c'est sûr, à 20 ans, bon, on n'a pas les mêmes perspectives, on croit qu'on est éternel, mais à un moment donné, à 40, à 50, et on commence à se dire, ah ouais, mais c'est vrai, finalement, on n'est peut-être pas toujours en si bonne santé que ça à 60 ans.
Est-ce que vous diriez que tout ça est fait pour que chacun se recentre sur lui-même et qu'il se dise, bah, faut que je pense à ma pomme, excusez-moi le terme, et que, bah oui, solidarité, répartition, tout ça, finalement, bah, ça n'est plus trop de sens.
Vous avez justement parlé des questions qui se posent et des termes qui ressortent de nos jours sur le durable. Mais la durabilité, à un moment donné, c'est quoi ? On sait que dans les problèmes, quand il y a des soucis, humainement, à un moment donné, on commence à mutualiser. On va prendre des termes, on va dire, génériques, là. La sécurité sociale, à un moment donné, c'était ça. Hein. Les services publics, c'était ça. En fait, on a tout cassé. Et on continue à détricoter ça, mais la société en a toujours besoin. Donc, on va pas se mentir. Le but, c'est bien de financiariser les besoins parce que, vous dites, les néolibéraux n'en ont pas assez. C'est tout ça. Donc, c'est bien le programme d'austérité dont je suis en train de parler de là, justement. C'est marrant, tout à l'heure, le discours de Denis Kessler, là, il date de 2007. On a commencé à aborder, justement, le terme de l'austérité à peu près dans ces périodes-là, vers 2007 au niveau de l'Europe.
Vous parliez de mutualiser, bah oui, dans l'esprit, c'est des arguments qu'on a pu entendre, et il y a des gens qui disent, oui, quand on cotise pour des mutuelles, ça ne nous sert pas à nous personnellement. Il y a cet esprit-là, que c'est pour les gens qui en ont besoin.
Et pour la sécu aussi, et c'est bien la philosophie. Mais justement, c'est bien pour ça que tout à l'heure, dans la citation que je fais d'Ambroise Croizat, il parle de la retraite. Dans le projet, bon, il y a tout, hein, il y a toutes les caisses, il y a toutes les branches qui sont là. Mais en même temps, il y a ça, parce que on en est sur ce phénomène-là. C'est-à-dire que c'est ce qui coûte le plus à un moment donné, c'est la population la plus âgée dans une société. Mais bien sûr que quand on est jeune, on cotise, on est censé le récupérer après. Alors vous allez me dire, effectivement, oui, mais si la natalité, elle baisse. Oui, effectivement. Mais dans les chiffres qui nous sont donnés, si je parle en pourcentage du PIB de notre pays, là, jusqu'à 2027, il n'y a rien qui dit. Effectivement, oui, ça va. Après, nous, en fait, on propose tout simplement d'autres moyens de financer ça. Même si ça crée un trou. De toute façon, les deux dernières années, on était excédentaires au niveau de nos caisses de retraite. Donc, on revendique bien la réduction du taux de chômage, l'augmentation des salaires, l'augmentation du point d'indice. Alors, salaire, c'est public et privé, hein, de toute façon. L'égalité salariale, donc, effectivement, c'est l'égalité femmes-hommes, mais l'égalité salariale aussi, en général. Supprimer, justement, ces exonérations de cotisations sociales. À chaque fois que le système il est redevenu stable, que ce soit sur une branche de la Sécu ou la Sécu tout entière, ils se démerdent à chaque fois pour redétricoter ça. C'est vraiment un éternel recommencement. Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête justement de toujours donner au même. Même là, on n'a même pas proposé autre chose à la population sur les cotisations. Peut-être que les salariés auraient pu être d'accord aussi de dire « Bon, bah, et si je cotise plus moi-même » Mais on ne parle pas de grand-chose. Hein. On peut parler de quelques dizaines de centimes. Ça représente combien ? Est-ce que ça m'éviterait de travailler 2 ans de plus ? Donc là, en fait, on le passe en force, en fait, en disant, voilà, c'est décidé, c'est comme ça, et de toute façon, ils se plantent en plus dans leurs argumentaires, en général. Enfin, ils s'enlisent. Hein. On voit bien que des deux côtés, on a pu accuser les députés de gauche d'être virulents, mais en fait, c'est des deux côtés. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'argument. Avant, on avait des énarques, mais maintenant, on a des Versaillais. On a l'impression qu'en fait, ceux qui sont à la majorité actuellement, là, ils ont jamais vécu. Pour pas dire, ils ont jamais bossé. Hein? Ça veut pas dire qu'ils travaillent pas, mais je veux dire, ils sont restés dans de la technocratie pure. Et on peut pas avoir des gens comme ça à un moment donné qui prennent les décisions pour la population. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et on a, justement, si j'appelle aussi au mouvement, c'est parce qu'il y a un problème démocratique. Là, on a l'État qui est en train de prendre la main, utiliser la sécurité sociale pour faire n'importe quoi. Elle est indépendante. Mais en fait, c'est vrai que l'organe de l'État qui décide, bah, se permet de faire n'importe quoi avec. La CSG, c'est nous qui la payons. Elle a augmenté il y a quelques années. Hop, les salariés s'en souviennent plus. Hein. Mais de toute façon, le coût du travail, il baisse déjà. Je vous parlais des exonérations de cotisations sociales et je suis attaché au salaire socialisé. Donc effectivement, en net, les salariés ont l'impression que bon, ça change rien. Mais quand je vous dis les 6%, en même temps, les 6% depuis 2019, donc ça, c'est direct, tous les mois, hein, 6% d'exonération patronale. Mais avant, le CICE, ça avait commencé en 2013. Alors, c'était des crédits d'impôt, mais voilà. Et tout ça, c'est passé où ? Bah, dans l'actionnariat.
Donc, ça veut dire que Vous ne seriez pas d'accord, par exemple, puisque vous évoquiez la CSG, par exemple, que le gouvernement dise « Ok, bah, on va peut-être s'adresser aux retraités les plus favorisés ?» Parce qu'il y en a qui me disent aussi ça. Hein, bah, finalement, bah, oui, on se dit ah, oui, que ce serait peut-être nous qui serions touchés, nous qui serions... comment on dit ça, la variable d'ajustement. Parce qu'il y en a qui le disent, ah oui, je m'attends au pire. Il y en a un qui m'a dit ça de cette façon-là.
Moi, je suis, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je suis pour l'ajustement en fonction de l'inflation hein, sur les salaires. Donc, pareil sur les pensions de retraite, en fait. Surtout les minima, d'ailleurs, enfin, surtout. Sur les pensions, donc tout ce qui sert à vivre, hein, il faut que ce soit revalorisé en fonction de l'inflation. Après, c'est vrai que c'est tout autre chose, puisque c'est un système où, à un moment donné, on répartit mieux les richesses. Donc c'est bien, en fait, aux libéraux, aux capitalistes, à ceux qui détiennent, en fait, autant d'argent, de réfléchir. C'est eux de réfléchir. Est-ce qu'ils en ont besoin ? Qu'est-ce qu'ils vont en faire, en fait ? Est-ce qu'ils en ont pas trop, déjà, pour toute une vie ? Et c'est pour ça que justement, je pense que bloquer le pays, c'est justement ceux qui travaillent dans ces multinationales-là qui vont pouvoir le faire et puis donner envie à la population rurale et éventuellement des petites entreprises aussi à s'y mettre en grève. Par contre, c'est sûr que là, d'appeler aux grèves illimitées, ça peut se faire dans les gros secteurs économiques. Donc, comme vous dites, les gens ils vont tourner aussi. Après, combien de temps va tenir ? C'est ça la question. Mais on ne peut pas bloquer le pays juste comme ça en arrêtant des boîtes qui font 100, 200 salariés, même moins. Ce n'est pas possible. Par contre, après, si les routes sont bloquées, si à un moment donné le transport est bloqué, donc le transport c'est routier et aérien et puis ferroviaire, hein, c'est les trois hein, par exemple. Après, y a aussi l'énergie. Hein. Et puis tout ça, savoir après combien de temps il faut. Et combien de temps il faut au gouvernement pour plier là-dessus. Il y a un rapport de force qui est là, mais en même temps, c'est dans leur mission. Il y a l'Europe aussi derrière hein, qui observe tout ça. Hein. Puisque le pacte budgétaire européen, il est toujours là. Hein. Donc en fait, à chaque fois, on nous dit non, c'est pas ça, mais si. Et après, il y a l'engagement du chef de l'État. S'il s'est engagé dans son programme, il y a une question de rapport de force. Donc après, est-ce qu'on va aller chercher ce rapport de force-là ? Par contre, je vais plus loin, qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Et qui est-ce qu'on veut ? Parce que là, il y a un problème démocratique. Effectivement, il y a une population qui n'en veut pas de cette réforme, et ça va bien au-delà. On a besoin de changer de société. On a besoin d'une transformation. Et elle n'a pas pu avoir lieu, puisque ça fait effectivement depuis 2017 où, à peu de choses, hein, les opportunités, en fait, elles étaient là, mais ça s'est joué à quelques voix, on va dire, hein, quelque part. Parce que est-ce qu'il est légitime aujourd'hui, ce gouvernement, hein, par rapport à l'électorat ? Pas tant que ça. Alors effectivement, il y a un taux d'abstention qui est fort. Mais en fait, ça découle. C'est ça que j'arrive à faire le lien, justement, citoyen, mais en fait, politique. Puisque cette peur, à un moment donné, peut-être du terme politique ou des syndicats, elle est là. Mais là, on voit bien que le sujet, il va au-delà. Je suis super content, en fait, d'arriver à avoir dans la population des gens qu'on ne voyait pas avant. Ça me plaît, en fait, de les voir en ce moment. Par contre, si on les voit, c'est que ça va vraiment mal.
Donc, je reviens pas sur le fait que Emmanuel Macron a annoncé avant l'élection qu'il allait faire la réforme des retraites. vous avez déjà évacué ça, que ce n'est pas un argument pour vous, ça ?
Non.
Ok, donc on ne revient plus là-dessus.
Bah non, on parle de démocratie.
Rassemblement le 7 mars, place Henri IV, on continuera encore. On a déjà fait plus de 45 minutes avec vous, Sylvain Super. Garnier. Le temps passe tellement vite. Et si on a fait autant de temps, c'est qu'il y avait énormément de choses à dire. Donc on vous retrouvera forcément sur Radio Prévert parce que vu ce qui se passe actuellement où des gens se mobilisent pour certains pour la première fois, comme je disais, et que ça se passe ainsi dans les villes moyennes, dans les villages aussi, et qu'il y ait des gens qui vous disent bah « oui, il faudrait venir faire des mobilisations aussi chez nous » parce que je sais que vous avez également des demandes de ce genre-là, mais vous ne pouvez pas en organiser partout.
Ben non.
Donc ça appelle à un échange démocratique, c'est comme ça que vous voulez
faire les choses.
Ah mais
de toute façon, je ne peux pas avoir le même discours effectivement qu'en national, là, en local, puisque justement, je défends ce qu'on doit retrouver justement, l'échange local. J'étais aussi sur les ronds-points avec, à un moment donné avec les Gilets jaunes. Je l'ai fait aussi sur la flèche. Je veux dire, avec l'association qu'il y a aujourd'hui, on se croise. Et effectivement, on a des différents philosophiques, mais lorsque nous allions avec ma camarade Diana sur les ronds-points, c'est pour rencontrer à l'époque la population fléchoise. Il y a des fléchois qu'on retrouve maintenant dans les manifs et qui venaient juste sur les ronds-points. C'est ça que je trouvais. J'ai aimé cette période pour rencontrer la population. Après, la question de dire les gilets jaunes pensent ça, les syndicats pensent ça, je veux pas en parler. Moi, j'ai trouvé les échanges riches à l'époque parce que j'y suis allé. Ça n'a pas été évident. De se faire accepter comme ça, parce qu'au départ, on n'était pas les bienvenus. Donc voilà. Et en fait, c'est parce que nous, on travaille différemment, en fait, en localité. D'ailleurs, je précise, on est bénévole, nous, à l'Union Locale, finalement. J'ai pas de décharge, moi, j'ai mon emploi. Effectivement, j'ai des heures de délégation. Je peux, effectivement, en utiliser un peu, là, pour pouvoir venir, là. Par exemple, aujourd'hui, sur un rendez-vous qui avait lieu vers 16h30, bon, alors que d'habitude, bon, je peux finir qu'à partir de 16h15, au minimum. Et en fait, là, ça me sert, mais j'ai pas de journée complète. L'Union Locale, c'est tous les mardis soirs, une permanence à partir de 18h, donc 18-19. Bon, en général, nous, ça nous fait finir beaucoup plus tard. Mmh. Après le travail, donc sur notre temps personnel, voilà comment elle tourne, cette UL. Et après, le reste, on se débrouille. Vous avez vu la petite musique là qui se promène là dans un caddie avec un micro et puis une banderole, on fait les trois à la fois. Mais en même temps, ça me plaît aussi. Et voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est clair que oui, je rejoins l'appel de bloquer le pays de l'intersyndicale au niveau national. Par contre, après, en ruralité, voilà, comment on fait? Donc on attend que les grosses fédérations le fassent, et après, peut-être que les gens vont se mettre en ordre, parce que je les connais bien, moi, je connais le temps d'incubation des salariés aussi, et puis des citoyens. Il faut qu'ils voient quelque chose de concret. Donc on va voir, par exemple la chimie, Mines Énergie, Air France aussi, les cheminots. Après, au niveau transport, je ne sais pas encore. Il faut voir après dans le public ce qui se fait. Bon, je sais qu'après en Sarthe, il y a les postiers, télécommunications, zone Montéar, là, qui veulent faire quelque chose de fort. Est-ce que localement, tout ça, ce qu'on observe, ça va donner envie aux gens? Il faut voir. À la Flèche, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, je ne sais pas combien de personnes on aura. En général, on se fait minimum le rond-point de la gare routière, et là, on pourra refaire celui de zone EDF. Mais effectivement, s'il y a du monde, ça va bloquer. Ça bloque un petit peu le temps d'un discours. Là, ça va peut-être bloquer plus. Après, c'est partout en France, vous avez dit, on était super surpris. Même sur l'île de Groix, il y a eu quelque chose qui était énorme avec un nombre de personnes qu'on n'aurait pas cru, quoi. C'est impressionnant. On va voir comment ça se passe à partir du 7. Est-ce qu'il y a vraiment du monde?
En tous les cas, une fois que ce sujet sera sorti de l'agenda politique, vous vous dites qu'il y a un terreau sur lequel construire quelque chose?
Non, mais tout à fait. Tout à fait. Je pense que là, le rapport de force, il est maintenant, en fait. Et effectivement, le ton quand même du gouvernement, juste après Covid, en pleine inflation, de passer ça, bon, c'est quand même une provocation. En tout cas, c'est irrespectueux, en fait, vis-à-vis de la population. Vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis de la population, des citoyens qui font la valeur ajoutée.
Les choses sont dites. Rassemblement le 7 mars, place Henri IV. C'est à la Flèche. CGT, CFDT, FO, CFTC, FSU, CFE, CGC, UNSA, Solidaire, CNT, UNEF. Ça, c'est l'intersyndical.
Ouais, c'est intersyndical national et départemental. Je ne sais pas s'il y a tout, mais voilà. Mais effectivement, on le fait comme ça. Même si l'UL, CGT, la Flèche, avec la FSU à l'initiative, parce que ce sont nous qui sommes les plus présents sur le secteur. Nous, on tient justement à cet intersyndical pour appeler tout le monde. Vous avez bien vu la dernière fois qu'on a eu une surprise d'avoir un salarié qui est élu sous une autre étiquette qui est venu nous voir. Et là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça, c'est qu'on soit unis sur le même projet. On parle bien des citoyens. Moi, mon discours, il va vraiment au-delà. Il faut pas continuer avec un gouvernement comme ça. Donc, il faut maintenant réagir, parce qu'il commence par là. Comme je vous dis, son projet s'appelle le CNR. Comme le Conseil national de la résistance, et c'est le clin d'œil à la citation de Kessler que j'ai fait tout à l'heure. Ils veulent le détricoter, ils veulent faire tomber ça, ils veulent casser les services publics, ils veulent tout privatiser, en fait. Ils veulent continuer à financiariser. Alors, le pouvoir d'achat, vous dire que la population, là, n'en a plus demain. Donc, il faut réagir maintenant.
Rendez-vous à 10h, place Henri IV, mardi 7 mars, et puis après la manifestation fléchoise. Il y a un covoiturage qui sera organisé, direction Le Mans, donc covoiturage organisé à partir de la gare routière de la Flèche, aux environs de 12h15. C'est précis, c'est juste, pas de fake news?
Non.
Tout est bon. Merci beaucoup Sylvain Garnier.
Merci à vous.
Pour cet échange de près d'une heure sur l'air du temps. Un temps politique, un temps syndical, un temps citoyen également, puisque vous avez insisté sur ce terme-là tout au long de l'entretien. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui sur Radio Prévert pour cet entretien, qui en appellera d'autres, avec vous-même et puis vos copains, on peut le dire, hein, syndicalistes d'autres bords, parce que cet espace, il se veut citoyen, il se veut un espace de débat. On pourra également inviter des élus de différents bords politiques pour initier quelque chose. Les débats fléchois sur Radio Prévert. Mmh. Bon, c'est lancé, merci encore une fois. Et puis, à bientôt sur Radio Prévert. Sylvain Garnier, co-responsable de l'Union locale CGT de la Flèche, invité de la radio.